Section 19.
Itinéraire.
Quatrième partie. Voyage de Jérusalem. Je m'occupais pendant quelques heures à crayonner des notes sur les lieux que je venais de voir, manière de vivre que je suivis tout le temps que je demeurais à Jérusalem, courant le jour et écrivant la nuit. Le père procureur entra chez moi le 7 octobre, de très grand matin. Il m'apprit la suite des démêlés du pacha et du père gardien. Nous convînmes de ce que nous avions à faire. On envoya mes firmans à Abdallah. Il s'emporta, cria, menaça, et finit cependant par exiger des religieux une somme un peu moins considérable. Je regrette bien de ne pouvoir donner la copie d'une lettre écrite par le père Bonaventure de Nola à monsieur le général Sébastiani. Je tiens cette copie du père Bonaventure lui-même. On y verrait, avec l'histoire du pacha, des choses aussi honorables pour la France que pour monsieur le général Sébastiani. Mais je ne pourrais publier cette lettre sans la permission de celui à qui elle est écrite, et malheureusement l'absence du général m'ôte tout moyen d'obtenir cette permission. Il fallait tout le désir que j'avais d'être utile au père de Terre Sainte pour m'occuper d'autre chose que de visiter le Saint-Sépulcre. Je sortis du couvent le même jour, à 9 heures du matin, accompagné de 2 religieux, d'un drogman, de mon domestique et d'un janissaire. Je me rendis à pied à l'église qui renferme le tombeau de Jésus-Christ. Tous les voyageurs ont décrit cette église, la plus vénérable de la terre, soit que l'on pense en philosophe ou en chrétien. Ici, j'éprouve un véritable embarras. Dois-je offrir la peinture exacte des lieux saints? Mais alors, je ne puis que répéter ce que l'on a dit avant moi. Jamais sujet ne fut peut-être moins connu des lecteurs modernes, et toutefois jamais sujet ne fut plus complètement épuisé. Dois-je omettre le tableau de ces lieux sacrés, mais ne sera-ce pas enlever la partie la plus essentielle de mon voyage, et en faire disparaître ce qui en est, et la fin, et le but? Après avoir balancé longtemps, je me suis déterminé à décrire les principales stations de Jérusalem, par les considérations suivantes. Premièrement, personne ne lit aujourd'hui les anciens pèlerinages à Jérusalem, et ce qui est très usé paraîtra vraisemblablement tout neuf à la plupart des lecteurs. Deuxièmement, l'église du Saint-Sépulcre n'existe plus. Elle a été incendiée de fond en comble depuis mon retour de Judée. Je suis pour ainsi dire le dernier voyageur qui l'ait vue, et j'en serai par cette raison même le dernier historien. Mais comme je n'ai point la prétention de refaire un tableau déjà très bien fait, je profiterai des travaux de mes devanciers, prenant soin seulement de les éclaircir par des observations. Parmi ces travaux, j'aurais choisi de préférence ceux des voyageurs protestants, à cause de l'esprit du siècle. Nous sommes toujours prêts à rejeter aujourd'hui ce que nous croyons sortir d'une source trop religieuse. Malheureusement, je n'ai rien trouvé de satisfaisant sur le Saint-Sépulcre dans Pocock, Shaw, Mandrell, Hasselquist et quelques autres. Les savants et les voyageurs qui ont écrit en latin touchant les antiquités de Jérusalem, tels que Adamanus, Bède, Brocard, Willibaldus, Breidenbach, Sanut, Ludolf, Roland, Andrico Mius, Quares Mius, Baumgarten, Führeri, Bochard, Arias Montanus, Heuich, Hess, Kotovic, m'obligeraient à des traductions qui, en dernier résultat, n'apprendrait rien de nouveau au lecteur. Je m'en suis donc tenu aux voyageurs français, et parmi ces derniers, j'ai préféré la description du Saint-Sépulcre par Déhay. Voici pourquoi. Belon, 1550, assez célèbre d'ailleurs comme naturaliste, dit à peine un mot du Saint-Sépulcre. Son style, en outre, a trop vieilli. D'autres auteurs, plus anciens encore que lui, ou ses contemporains, tels que Gachernois, 1490, Regnault, 1522, Salignac, 1522, Le Huin, 1525, Gassot, 1536, Renault, 1548, Postel, 1553, Giraudet, 1575, se servent également d'une langue trop éloignée de celle que nous parlons. Villamont, 1588, se noie dans les détails. Il n'a ni méthode ni critique. Le père Boucher, 1610, est si pieusement exagéré qu'il est impossible de le citer. Bernard, 1616, écrit avec assez de sagesse quoiqu'il n'eût que 20 ans à l'époque de son voyage. Mais il est diffus, plat et obscur. Le père pacifique, 1622, est vulgaire, et sa narration est trop abrégée. Monkouis, 1647, ne s'occupe que de recettes de médecine. Doubdan, 1651, est clair, savant, très digne d'être consulté, mais long et sujet à s'apesantir sur les petites choses. Le frère Roger, 1653, attaché pendant 5 années au service des lieux saints, a de la science, de la critique, un style vif et animé. Sa description du Saint-Sépulcre est trop longue, c'est ce qui me l'a fait exclure. Thévenot, 1656, un de nos voyageurs les plus connus, a parfaitement parlé de l'église de Saint-Sauveur, et j'engage les lecteurs à consulter son ouvrage.
Voyage au Levant,
chapitre 39. Mais il ne s'éloigne guère de Déhay. Le père Naot, jésuite, 1674, joignit à la connaissance des langues de l'Orient l'avantage d'accomplir le voyage de Jérusalem avec le marquis de Nointel, notre ambassadeur à Constantinople, et le même à qui nous devons les premiers dessins d'Athènes. C'est bien dommage que le savant jésuite soit d'une intolérable prolixité. La lettre du père Néret, dans les lettres édifiantes, est excellente de tout point, mais elle omet trop de choses. J'en dis autant de Du Loiret de la Roque, 1688. Quant aux voyageurs tout à fait modernes, Müller,
Vanzoff, Kortepscheder,
Mariti, Volney, Niebuhr, Braun, ils se taisent presque entièrement sur les saints lieux. Déhay, 1621, envoyé par Louis XIII en Palestine, m'a donc paru mériter qu'on s'attachât à son récit. Premièrement, parce que les Turcs s'empressèrent de montrer eux-mêmes Jérusalem à cet ambassadeur, et qu'il serait entré jusque dans la mosquée du Temple s'il l'avait voulu. Deuxièmement, parce qu'il est si clair et si précis dans le style un peu vieilli de son secrétaire que Paul Lucas l'a copié mot à mot, sans avertir du plagiat, selon sa coutume. Troisièmement, parce que Danville, et c'est la raison péremptoire, a pris la carte de Déhay pour l'objet d'une dissertation qui est peut-être le chef-d'œuvre de notre célèbre géographe. Déhay va nous donner ainsi le matériel de l'église du Saint-Sépulcre. J'y joindrai ensuite mes observations. Le Saint-Sépulcre et la plupart des saints lieux sont servis par des religieux cordeliers, qui y sont envoyés de 3 ans en 3 ans, et encore qu'il y en ait de toutes nations, ils passent néanmoins tous pour Français ou pour Vénitiens, et ne subsistent que parce qu'ils sont sous la protection du roi. Il y a près de 60 ans qu'ils demeuraient hors de la ville, sur le mont de Sion, au même lieu où notre Seigneur fit la scène avec ses apôtres. Mais leur église ayant été convertie en mosquée, ils ont toujours depuis demeuré dans la ville sur le mont Giron, où est leur couvent, que l'on appelle Saint-Sauveur. C'est où leur gardien demeure avec le corps de la famille qui pourvoit de religieux en tous les lieux de la Terre Sainte où il est besoin qu'il y en ait. L'église du Saint-Sépulcre n'est éloignée de ce couvent que de 200 pas. Elle comprend le Saint-Sépulcre, le mont Calvaire et plusieurs autres lieux saints. Ce fut sainte Hélène qui en fit bâtir une partie pour couvrir le Saint-Sépulcre. Mais les princes chrétiens, qui vinrent après, la firent augmenter pour y comprendre le mont Calvaire, qui n'est qu'à 50 pas du Saint-Sépulcre. Anciennement, le mont Calvaire était hors de la ville, ainsi que je l'ai déjà dit. C'était le lieu où l'on exécutait les criminels condamnés à mort. Afin que tout le peuple y pût assister, il y avait une grande place entre le mont et la muraille de la ville. Le reste du mont
était environné
de jardins, dont l'un appartenait à Joseph d'Arimathie, disciple secret de Jésus-Christ, où il avait fait faire un sépulcre pour lui, dans lequel fut mis le corps de notre Seigneur. La coutume, parmi les Juifs, n'était pas d'enterrer les corps comme nous faisons en chrétienté. Chacun, selon ses moyens, faisait pratiquer dans quelques roches une forme de petit cabinet où l'on mettait le corps, que l'on étendait sur une table du rocher même. Et puis on refermait ce lieu avec une pierre que l'on mettait devant la porte qui n'avait d'ordinaire que 4 pieds de haut. L'église du Saint-Sépulcre est fort irrégulière,
car l'on s'est
assujettie au lieu que l'on voulait enfermer dedans. Elle est à peu près faite en croix, ayant 6-20 pas de long, sans compter la descente de l'invention de la Sainte Croix et 70 de large. Il y a 3 dômes, dont celui qui couvre le Saint-Sépulcre sert de nef à l'église. Il a 30 pas de diamètre et est ouvert par en haut, comme la rotonde de Rome. Il est vrai qu'il n'y a point de voûte. La couverture en est soutenue seulement par de grands chevrons de cèdre qui ont été apportés du mont Liban. On entrait autrefois en cette église par 3 portes, mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'une, dont les Turcs gardent soigneusement les clés, de crainte que les pèlerins n'y entrent sans payer les 9 sequins ou 36 livres à quoi ils sont taxés. J'entends ceux qui viennent de chrétienté, car pour les chrétiens sujets du grand seigneur, ils n'en payent pas la moitié. Cette porte est toujours fermée. Il n'y a qu'une petite fenêtre traversée d'un barreau de fer par où ceux de dehors donnent des vivres à ceux qui sont dedans, lesquels sont de 8 nations différentes. La première est celle des Latins ou Romains que représentent les religieux cordeliers. Ils gardent le Saint-Sépulcre, le lieu du Mont Calvaire où notre Seigneur fut attaché à la croix, l'endroit où la Sainte Croix fut trouvée, la pierre de l'onction, et la chapelle où notre Seigneur apparut à la Vierge après sa résurrection. La seconde nation est celle des Grecs, qui ont le cœur de l'Église, où ils officient, au milieu duquel il y a un petit cercle de marbre, dont ils estiment que le centre soit le milieu de la terre. La troisième nation est celle des Abyssins. Ils tiennent la chapelle, où est la colonne d'Impropère. La quatrième nation est celle des Coptes, qui sont les chrétiens d'Égypte. Ils ont un petit oratoire proche du Saint-Sépulcre. La cinquième est celle des Arméniens. Ils ont la chapelle de Sainte-Hélène et celle où les habits de notre Seigneur furent partagés et joués. La sixième nation est celle des Nestoriens ou Jacobites, qui sont venus de Chaldée et de Syrie. Ils ont une petite chapelle proche du lieu où notre Seigneur apparut à la Madeleine, en forme de jardinier, qui pour cela est appelée la chapelle de la Madeleine. La septième nation est celle des Géorgiens, qui habitent entre la mer Majeure et la mer Caspienne. Ils tiennent le lieu du mont Calvaire, où fut dressée la croix, et la prison où demeura notre Seigneur en attendant que l'on eût fait le trou pour la placer. La huitième nation est celle des Maronites, qui habitent le mont Liban. Ils reconnaissent le pape comme nous faisons. Chaque nation, outre ces lieux que tous ceux qui sont dedans peuvent visiter, a encore quelques endroits particuliers dans les voûtes et dans les coins de cette église qui lui sert de retraite, et où elle fait l'office selon son usage. Car les prêtres et religieux qui y entrent demeurent d'ordinaire 2 mois sans en sortir, jusqu'à ce que du couvent qu'ils ont dans la ville, l'on y en envoie d'autres pour servir en leur place. Il serait malaisé d'y demeurer longuement sans être malade, parce qu'il y a fort peu d'air, et que les voûtes et les murailles rendent une fraîcheur assez malsaine. Néanmoins, nous y trouvâmes un bon ermite qui a pris l'habit de saint François, qui y a demeuré 20 ans sans en sortir, encore qu'il y ait tellement à travailler pour entretenir 200 lampes et pour nettoyer et parer tous les lieux saints, qu'il ne saurait reposer plus de 4 heures par jour. En entrant dans l'église, on rencontre la pierre de l'onction, sur laquelle le corps de notre Seigneur fut oint de myrrhe et d'aloès avant que d'être mis dans le sépulcre. Quelques-uns disent qu'elle est du même rocher du mont Calvaire, et les autres tiennent qu'elle fut apportée dans ce lieu par Joseph et Nicodème, disciples secrets de Jésus-Christ, qui lui rendirent ce pieux office et qu'elle tire sur le verre. Quoi qu'il en soit, à cause de l'indiscrétion de quelques pèlerins qui la rompaient, l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc et de l'entourer d'un petit balustre de fer de peur que l'on ne marche dessus. Elle a 8 pieds moins 3 pouces de long et 2 pieds moins 1 pouce de large. Et au-dessus, il y a 8 lampes qui brûlent continuellement. Le Saint-Sépulcre est à 30 pas de cette pierre, justement au milieu du grand dôme dont j'ai parlé. C'est comme un petit cabinet qui a été creusé et pratiqué dans une roche vive à la pointe du ciseau. La porte qui regarde l'Orient n'a que 4 pieds de haut et 2 1/4 de large, de sorte qu'il se faut grandement baisser pour y entrer. Le dedans du sépulcre est presque carré. Il a 6 pieds moins 1 pouce de long et 6 pieds moins 2 pouces de large, et depuis le bas jusqu'à la voûte, 8 pieds 1 pouce. Il y a une table solide de la même pierre qui fut laissée en creusant le reste. Elle a 2 pieds 4 pouces et demi de haut et contient la moitié du sépulcre, car elle a 6 pieds moins 1 pouce de long et 2 pieds 2 tiers et demi de large. Ce fut sur cette table que le corps de notre Seigneur fut mis, ayant la tête vers l'Occident et les pieds à l'Orient, mais à cause de la superstitieuse dévotion des orientaux qui croient qu'ayant laissé leurs cheveux sur cette pierre, Dieu ne les abandonnerait jamais, et aussi parce que les pèlerins en rompaient des morceaux, l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc sur lequel on célèbre aujourd'hui la messe. Il y a continuellement 44 lampes qui brûlent dans ce saint lieu, et afin d'en exhaler la fumée, l'on a fait 3 trous à la voûte. Le dehors du sépulcre est aussi revêtu de tables de marbre et de plusieurs colonnes avec un dôme au-dessus. À l'entrée de la porte du sépulcre, il y a une pierre d'un pied et demi en carré et relevée d'un pied qui est du même roc, laquelle servait pour appuyer la grosse pierre qui bouchait la porte du sépulcre. C'était sur cette pierre qu'était l'ange lorsqu'il parla au Marie. Étant à cause de ce mystère, pour ne pas entrer d'abord dans le Saint-Sépulcre, les premiers chrétiens firent une petite chapelle au-devant qui est appelée la chapelle de l'ange. À 12 pas du Saint-Sépulcre, en tirant vers le septentrion, l'on rencontre une grande pierre de marbre gris qui peut avoir 4 pieds de diamètre, que l'on a mise là pour marquer le lieu où notre Seigneur se fit voir à la Madeleine en forme de jardinier. Plus avant est la chapelle de l'Apparition, où l'on tient par tradition que notre Seigneur apparut premièrement à la Vierge après sa résurrection. C'est le lieu où les religieux cordeliers font leur office et où ils se retirent, car de là ils entrent dans des chambres qui n'ont point d'autre issue que par cette chapelle. Continuant à faire le tour de l'église, l'on trouve une petite chapelle voûtée qui a 7 pieds de long et 6 de large, que l'on appelle autrement la prison de notre Seigneur, parce qu'il fut mis dans ce lieu en attendant que l'on eût fait le trou pour planter la croix. Cette chapelle est à l'opposite du mont Calvaire, du sorte que ces deux lieux sont comme la croisée de l'église, car le mont est au midi et la chapelle au septentrion. Assez proche de là est une autre chapelle de 5 pas de long et de 3 de large, qui est au même lieu où notre Seigneur fut dépouillé par les soldats avant que d'être attaché à la croix, et où ses vêtements furent joués et partagés. En sortant de cette chapelle, on rencontre à main gauche un grand escalier qui perce la muraille de l'église pour descendre dans une espèce de cave qui est creusée dans le roc. Après avoir descendu 30 marches, il y a une chapelle à main gauche que l'on appelle vulgairement la chapelle Sainte-Hélène, à cause qu'elle était là en prière pendant qu'elle faisait chercher la Sainte Croix. L'on descend encore 11 marches jusqu'à l'endroit où elle fut trouvée avec les clous, la couronne d'épines et le fer
de la lance
qui avait été caché en ce lieu plus de 300 ans. Proche du haut de ce degré, en tirant vers le mont Calvaire, est une chapelle qui a 4 pas de long et 2,5 de large, sous l'autel de laquelle l'on voit une colonne de marbre gris, marquetée de taches noires, qui a 2 pieds de haut et 1 de diamètre. Elle est appelée la colonne d'impropère, parce que l'on y fit asseoir notre Seigneur pour le couronner d'épines. L'on rencontre à 10 pas de cette chapelle un petit degré fort étroit, dont les marches sont de bois au commencement et de pierre à la fin. Il y en a 20 en tout, par lesquels on va sur le mont Calvaire. Ce lieu, qui était autrefois si ignominieux, ayant été sanctifié par le sang de notre Seigneur, les premiers chrétiens en eurent un soin particulier, et après avoir ôté toutes les immondices et toute la terre qui était dessus, ils l'enfermèrent de murailles, de sorte que c'est à présent comme une chapelle haute qui est enclose dans cette église. Elle est revêtue de marbre par dedans et séparée en deux par une arcade, ce qui est vers le septentrion et l'endroit où notre Seigneur fut attaché à la croix. Il y a toujours 32 lampes ardentes qui sont entretenues par les cordeliers, qui célèbrent aussi tous les jours la messe en ce saint lieu. En l'autre partie, qui est au midi, fut plantée la Sainte Croix. On voit encore le trou qui est creusé dans le roc, environ 1,5 pieds, outre la terre qui était dessus. Le lieu où étaient les croix des deux larrons est proche de là. Celle du bon larron était au septentrion, et l'autre au midi, de manière que le premier était à la main droite de notre Seigneur, qui avait la face tournée vers l'Occident, et le dos du côté de Jérusalem, qui était à l'Orient. Il y a continuellement 50 lampes ardentes pour honorer ce saint lieu. Au-dessous de cette chapelle sont les sépulcres de Godefroy de Bouillon et de Baudouin, son frère, où on lit ces inscriptions. Hic jacet in clitus dux Godofridus de Bullion, qui totam istam terram acquisivit cultui Christiano, cuius anima regnet cum Christo. Amen. Rex Balduinus, Judas alter Maccabeus, spes patriae, vigor ecclesiae, virtus etriusque, quem formidabant, qui dona tributa ferebant,
Cedar
et Aegyptus, Danac
homicida
Damascus, proi dolor, in modico clauditur hoc tumulo. Le mont du Calvaire est la dernière station de l'église du Saint-Sépulcre, car à 20 pas de là, l'on rencontre la pierre de l'onction, qui est justement à l'entrée de l'église. Dehé, ayant ainsi décrit par ordre les stations de tant de lieux vénérables, il ne me reste à présent qu'à montrer l'ensemble de ces lieux au lecteur. On voit d'abord que l'église du Saint-Sépulcre se compose de 3 églises, celle du Saint-Sépulcre, celle du Calvaire et celle de l'invention de la Sainte-Croix. L'église proprement dite du Saint-Sépulcre est bâtie dans la vallée du Mont Calvaire et sur le terrain où l'on sait que Jésus-Christ fut enseveli. Cette église forme une croix. La chapelle même du Saint-Sépulcre n'est en effet que la grande nef de l'édifice. Elle est circulaire comme le Panthéon à Rome et ne reçoit le jour que par un dôme au-dessus duquel se trouve le Saint-Sépulcre. 16 colonnes de marbre ornent le pourtour de cette rotonde. Elles soutiennent, en décrivant 17 arcades, une galerie supérieure également composée de 16 colonnes et de 17 arcades plus petites que les colonnes et les arcades qui les portent. Des niches correspondantes aux arcades s'élèvent au-dessus de la frise de la dernière galerie, et le dôme prend sa naissance sur l'arc de ces niches. Celles-ci étaient autrefois décorées de mosaïques représentant les 12 apôtres, sainte Hélène, l'empereur Constantin et 3 autres portraits inconnus. Le cœur de l'église du Saint-Sépulcre est à l'orient de la nef du tombeau. Il est double, comme dans les anciennes basiliques, c'est-à-dire qu'il a d'abord une enceinte, avec des stalles pour les prêtres, ensuite un sanctuaire reculé et élevé de 2 degrés au-dessus du premier. Autour de ce double sanctuaire règnent les ailes du cœur, et dans ces ailes sont placées les chapelles décrites par Dehé. C'est aussi dans l'aile droite, derrière le cœur, que s'ouvrent les 2 escaliers qui conduisent l'un à l'église du Calvaire, l'autre à l'église de l'invention de la Sainte-Croix. Le premier monte à la cime du Calvaire, le second descend sous le Calvaire même. En effet, la croix fut élevée sur le sommet du Golgotha et retrouvée sous cette montagne. Ainsi, pour nous résumer, l'église du Saint-Sépulcre est bâtie au pied du Calvaire. Elle touche par sa partie orientale à ce monticule, sous lequel et sur lequel on a bâti 2 autres églises qui tiennent par des murailles et des escaliers voûtés au principal monument. L'architecture de l'église est évidemment du siècle de Constantin. L'ordre corinthien domine partout. Les piliers sont lourds ou maigres et leur diamètre est presque toujours sans proportion avec leur hauteur. Quelques colonnes accouplées qui portent la frise du cœur sont toutefois d'un assez bon style. L'église étant haute et développée, les corniches se profilent à l'œil avec assez de grandeur. Mais comme depuis environ 60 ans, on a surbaissé l'arcade qui sépare le cœur de la nef, le rayon horizontal est brisé, et l'on ne jouit plus de l'ensemble de la voûte. L'église n'a point de péristyle. On entre par 2 portes latérales. Il n'y en a plus qu'une d'ouverte. Ainsi, le monument ne paraît pas avoir eu de décorations extérieures. Il est masqué, d'ailleurs, par les masures et par les couvents grecs qui sont accolés aux murailles. Le petit monument de marbre qui couvre le Saint-Sépulcre a la forme d'un catafalque, orné d'arceaux demi-gothiques, engagés dans les côtés pleins de ce catafalque. Il s'élève élégamment sous le dôme qui l'éclaire, mais il est gâté par une chapelle massive que les Arméniens ont obtenu la permission de bâtir à l'une de ses extrémités. L'intérieur du catafalque offre un tombeau de marbre blanc fort simple, appuyé d'un côté au mur du monument et servant d'autel aux religieux catholiques. C'est le tombeau de Jésus-Christ. L'origine de l'église du Saint-Sépulcre est d'une haute antiquité. L'auteur de l'épitome des guerres sacrées, Epitome Belliorum Sacrorum, prétend que, 46 ans après la destruction de Jérusalem par Vespasien et Titus, les chrétiens obtinrent d'Adrien la permission de bâtir, ou plutôt de rebâtir un temple, sur le tombeau de leur dieu, et d'enfermer dans la nouvelle cité les autres lieux révérés des chrétiens. Il ajoute que ce temple fut agrandi et réparé par Hélène, mère de Constantin. Quaresmius combat cette opinion, parce que, dit-il, les fidèles jusqu'au règne de Constantin n'eurent pas la permission d'élever de pareils temples. Le savant religieux oublie qu'avant la persécution de Dioclétien, les chrétiens possédaient de nombreuses églises et célébraient publiquement leurs mystères. Lactance et Eusèbe vantent à cette époque la richesse et le bonheur des fidèles. D'autres auteurs dignes de foi, Sozomène, dans le second livre de son histoire, Saint Jérôme, dans ses épîtres, à Paulin et à Ruffin, Sévère, livre 2, Nicéphore, livre 18, et Eusèbe, dans la vie de Constantin, nous apprennent que les païens entourèrent d'un mur les saints lieux, qu'ils élevèrent sur le tombeau de Jésus-Christ une statue à Jupiter et une autre statue à Vénus sur le calvaire, qu'ils consacrèrent un bois à Adonis sur le berceau du Sauveur. Ces témoignages démontrent également l'antiquité du vrai culte à Jérusalem par la profanation même des lieux sacrés et prouvent que les chrétiens avaient des sanctuaires dans ces lieux. Quoi qu'il en soit, la fondation de l'église du Saint-Sépulcre remonte au moins au règne de Constantin. Il nous reste une lettre de ce prince qui ordonne à Macaire, évêque de Jérusalem, d'élever une église sur le lieu où s'accomplit le grand mystère du salut. Eusèbe nous a conservé cette lettre. L'évêque de Césarée fait ensuite la description de l'église nouvelle, dont la dédicace dura 8 jours. Si le récit d'Eusèbe avait besoin d'être appuyé par des témoignages étrangers, on aurait ceux de Cyrille, évêque de Jérusalem,
Catéchèse 1-10-13,
de Théodoret, et même de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem en 333, Ibdem,
Iussu
Constantini Imperatoris Basilica Facta Est Mirae Pulcri Tudinis. Cette église fut ravagée par Chosroès II, roi de Perse, environ 3 siècles après qu'elle eût été bâtie par Constantin. Héraclius reconquit la vraie croix, et Modeste, évêque de Jérusalem, rétablit l'église du Saint-Sépulcre. Quelque temps après, le calife Omar s'empara de Jérusalem, mais il laissa aux chrétiens le libre exercice de leur culte. Vers l'an 1009, Équem, ou Akem, qui régnait en Égypte, porta la désolation au tombeau de Jésus-Christ. Les uns veulent que la mère de ce prince, qui était chrétienne, ait fait encore relever les murs de l'église abattue. Les autres disent que le fils du calife d'Égypte, à la sollicitation de l'empereur Argyropile, permit aux fidèles d'enfermer les saints lieux dans un monument nouveau. Mais comme à l'époque du règne de Hakem, les chrétiens de Jérusalem n'étaient ni assez riches ni assez habiles pour bâtir l'édifice qui couvre aujourd'hui le calvaire, comme, malgré un passage très suspect de Guillaume de Tyre, rien n'indique que les croisés aient fait construire à Jérusalem une église du Saint-Sépulcre, il est probable que l'église fondée par Constantin a toujours subsisté telle qu'elle est, du moins quant aux murailles du bâtiment. La seule inspection de l'architecture de ce bâtiment suffirait pour démontrer la vérité de ce que j'avance. Les croisés s'étant emparés de Jérusalem le 15 juillet 1099, arrachèrent le tombeau de Jésus-Christ des mains des infidèles. Il demeura 88 ans sous la puissance des successeurs de Godefroy de Bouillon. Lorsque Jérusalem retomba sous le joug musulman, les Syriens rachetèrent à prix d'or l'église du Saint-Sépulcre. Et des moines vinrent défendre avec leurs prières des lieux inutilement confiés aux armes des rois. C'est ainsi qu'à travers 1000 révolutions, la foi des premiers chrétiens nous avait conservé un temple qu'il était donné à notre siècle de voir périr. Les premiers voyageurs étaient bien heureux. Ils n'étaient point obligés d'entrer dans toutes ces critiques. Premièrement, parce qu'ils trouvaient, dans leurs lecteurs, la religion qui ne dispute jamais avec la vérité. Secondement, parce que tout le monde était persuadé que le seul moyen de voir un pays tel qu'il est, c'est de le voir avec ses traditions et ses souvenirs. C'est, en effet, la Bible et l'Évangile à la main que l'on doit parcourir la Terre Sainte. Si l'on veut y porter un esprit de contention et de chicane, la Judée ne vaut pas la peine qu'on l'aille chercher si loin. Que dirait-on d'un homme qui, parcourant la Grèce et l'Italie, ne s'occuperait qu'à contredire Homère et Virgile? Voilà pourtant comme on voyage aujourd'hui. Effet sensible de notre amour-propre qui veut nous faire passer pour habiles en nous rendant dédaigneux. Les lecteurs chrétiens demanderont peut-être à présent quels furent les sentiments que j'éprouvais en entrant dans ce lieu redoutable. Je ne puis réellement le dire. Tant de choses se présentaient à la fois à mon esprit que je ne m'arrêtais à aucune idée particulière. Je restais près d'une demi-heure à genoux dans la petite chambre du Saint-Sépulcre, les regards attachés sur la pierre sans pouvoir les en arracher. L'un des deux religieux qui me conduisait demeurait prosterné auprès de moi, le front sur le marbre. L'autre, l'évangile à la main, me lisait à la lueur des lampes les passages relatifs au Saint-Tombeau. Entre chaque verset, il récitait une prière. « Domine Jésus Christe, qui in ora diei vespertina, de cruce depositus, in brachiis dulcissimae matris tuae reclinatus fuisti. » Oraque ultima in hoc santissimo monumento corpus tuum exanime contulisti, etc. Tout ce que je puis assurer, c'est qu'à la vue de ce sépulcre triomphant, je ne sentis que ma faiblesse, et quand mon guide s'écria avec saint Paul « Ubi est, mors, victoria tua, ubi est, mors, stimulus tuus », je prêtai l'oreille, comme si la mort allait répondre qu'elle était vaincue et enchaînée dans ce monument. Nous parcourûmes les stations jusqu'au sommet du calvaire. Où trouver dans l'Antiquité rien d'aussi touchant, rien d'aussi merveilleux que les dernières scènes de l'Évangile? Ce ne sont point ici les aventures bizarres d'une divinité étrangère à l'humanité. C'est l'histoire la plus pathétique, histoire qui non seulement fait couler les larmes par sa beauté, mais dont les conséquences appliquées à l'univers, ont changé la face de la terre. Je venais de visiter le monument de la Grèce, et j'étais encore tout rempli de leur grandeur. Mais qu'ils avaient été loin de m'inspirer ce que j'éprouvais à la vue des lieux saints. L'église du Saint-Sépulcre, composée de plusieurs églises bâties sur un terrain inégal, éclairée par une multitude de lampes, est singulièrement mystérieuse. Il y règne une obscurité favorable à la piété et au recueillement de l'âme. Les prêtres chrétiens des différentes sectes habitent les différentes parties de l'édifice. Du haut des arcades, où ils se sont nichés comme des colombes, du fond des chapelles et des souterrains, ils font entendre leurs cantiques à toutes les heures du jour et de la nuit. L'orgue du religieux latin, les cymbales du prêtre abyssin, la voix du calloyer grec, la prière du solitaire arménien, l'espèce de plainte du moine copte, frappe tour à tour ou tout à la fois votre oreille. Vous ne savez d'où partent ces concerts. Vous respirez l'odeur de l'encens sans apercevoir la main qui le brûle. Seulement vous voyez passer, s'enfoncer derrière des colonnes, se perdre dans l'ombre du temple, le pontife qui va célébrer les plus redoutables mystères au lieu même où ils se sont accomplis. Je ne sortis point de l'enceinte sacrée sans m'arrêter au monument de Godefroy et de Baudouin. Ils font face à la porte de l'église et sont appuyés contre le mur du chœur. Je saluai les cendres de ces rois chevaliers qui méritèrent de reposer près du grand sépulcre qu'ils avaient délivré. Ces cendres sont des cendres françaises et les seules qui soient ensevelies à l'ombre du tombeau de Jésus-Christ. Quel titre d'honneur pour ma patrie! Je retournai au couvent à 11 heures, et j'en sortis de nouveau à midi pour suivre la voie douloureuse. On appelle ainsi le chemin que parcourut le Sauveur du monde en se rendant de la maison de Pilate au calvaire.
Fin de la section 19.